Vous voyez mon écran, c'est bon?
Oui, c'est
Oui.
bon.
C'est bon. Hop. Alors, donc moi, je suis écologue, mais depuis quelques années, depuis 5 ans maintenant, je mène des travaux également, on va dire, en psychologie ou sociologie de l'environnement. Et l'idée, en fait, alors je suis plutôt écologue de la conservation, mon objectif est de conserver de la biodiversité, on va dire, mais c'est comment, en fait, décaler aussi la question pour voir comment concilier biodiversité et société, on pourrait mettre des pluriels justement aux deux, en milieu urbain. Et donc, nos travaux, faits avec plusieurs collègues, sont plutôt portés sur le site atelier de Blois Agglopolis, mais également sur d'autres sites. Alors, je reviens brièvement sur les enjeux, mais peut-être pour les dire un petit peu autrement, au final, pourquoi se poser la question de la biodiversité en ville? D'une part, par rapport à quand même à un contexte d'urbanisation qui est très dynamique. À la différence justement des villes médiévales, on est sur une urbanisation qui s'étend de manière de plus en plus importante, justement avec des formes aussi très nouvelles, et qui va engendrer donc une diminution des espaces naturels et de la qualité environnementale de ces espaces. Pour autant, il y a des potentialités écologiques en ville, et je vais y revenir après. Et puis, c'est également, ça a déjà été évoqué, mais ça entraîne des problèmes enfin, des enjeux de relation à la nature, notamment un déclin de l'expérience de la nature au quotidien, dans la nature, dans la ville, et probablement d'ailleurs en relation avec l'extérieur de la ville, avec des modes de vie différents, mais également du coup qui entraînent des problèmes de santé, hein, maintenant ça c'est bien documenté, mais également un cercle vicieux en fait de désintérêt pour la nature et puis pour sa conservation, c'est-à-dire moins on la côtoie, plus on s'y désintéresse et plus moins on la conserve et on continue comme ça. L'idée, ça serait d'essayer en fait de rechercher des solutions visant à faire de la ville un site accueillant pour la biodiversité, mais également à promouvoir des relations de respect. On revient sur cette notion de relation entre les humains et les autres vivants. Alors, une partie de mes travaux, moi, porte déjà en tant qu'écologue en fait sur quelle est la place de la biodiversité, de quelle biodiversité en ville, et puis de comprendre un peu ces déterminants. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la ville est loin d'être en fait un désert hein, biologique. Nous, on a par exemple trouvé, on s'intéresse beaucoup aux plantes, qu'un quart des plantes qui se trouvent, des espèces de plantes qui se trouvent dans la région Centre-Val de Loire se retrouvent en ville, notamment dans les friches urbaines et la flore spontanée des trottoirs. Donc en ville, on peut avoir des espèces. Pour autant, on peut aussi prendre l'autre revers de la médaille en se disant qu'il y a les trois quarts des espèces qui n'arrivent pas à rentrer en ville quand on prend par rapport à la région centre. Donc là, je parle des plantes, mais on pourrait faire des analogies aussi avec des animaux, notamment parce qu'il y a des filtres environnementaux. Notamment, il y a les espèces oligotrophes, c'est-à-dire de milieux plutôt pauvres, et des espèces de milieux humides qui n'arrivent pas à passer ce filtre urbain parce qu'on a des conditions environnementales un peu difficile. Puis d'autre part, il y a un fil de gestion, et je vais y revenir pas mal là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un rapport quand même de domination assez fort de l'homme vis-à-vis de la nature, et du coup cette gestion par la binette ou par le pesticide maintenant qui ont disparu, mais aussi va filtrer également des espèces qui ne peuvent pas être là par rapport à cette gestion. Pour moi, et puis avec certains collègues, on se dit qu'au final, une des solutions probablement pour parler de la biodiversité en ville, au final pour la qualifier un peu plus, cette nature, de quelle nature on parle, c'est parler de spontanéité écologique. Pour nous, enfin, et pour moi, la spontanéité écologique peut être vue comme un facteur majeur pour parler de biodiversité en ville. Alors, qu'est-ce que je parle derrière, qu'est-ce que je veux dire derrière de spontanéité? Ça peut être d'une part la spontanéité d'assemblage, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les friches urbaines, c'est-à-dire des endroits qu'on n'a pas semés intentionnellement, et au final, on se rend compte que les espèces peuvent coloniser comme ça de manière spontanée. Et ça, c'est très intéressant. On se rend compte que les friches sont quand même les lieux les plus diversifiés en termes d'espèces végétales, en termes de structures végétales. Et puis ça, c'est intéressant aussi en termes de chaîne trophique, c'est-à-dire que dans ces friches avec des structures et des compositions végétales très contrastées, on va retrouver des diversités de papillons, d'insectes, d'oiseaux, parce qu'on va retrouver une diversité en fait de ressources alimentaires, mais également de sites pour nicher. Deuxième type de spontanéité, ça serait les spontanéités de fonctionnement, c'est-à-dire que au lieu enfin, limiter en fait les effets de gestion et plutôt parler en termes de gestion extensive ou gestion écologique, diminuer un peu ce rapport de domination pour laisser une nature qui s'exprime un peu plus spontanément Et là, c'est un collègue, là, Simon Chollet à Rennes, qui montrait assez bien que quand on limite la gestion en termes de fréquence de tonte dans des espaces plutôt herbacés, dans ce cas-là, on a une diversité végétale et fonctionnelle qui s'exprime d'autant mieux. Pour que cette spontanéité s'exprime, il faut aussi qu'elle ait de la place pour s'exprimer. Ça, c'est un deuxième point qui me semble important en ville, en fait, qui est quand même, par presque définition, un lieu qui est assez minéralisé, parce qu'on a du bâti, ou en tout cas, on pourrait peut-être voir d'ailleurs le bâti raisonner différemment. Est-ce qu'il est obligé d'être minéralisé tout le temps? Des architectes qui travaillent là. Mais en tout cas, essayer de déminéraliser pour laisser justement s'exprimer cette spontanéité. Et on voit bien que dès qu'on a un peu de sol de disponible, les plantes peuvent arriver assez facilement. Bon, je suis allé assez vite sur ces aspects écologiques, mais j'ai essayé de donner mes grandes orientations. Ce que je me suis rendu compte depuis quelques années, c'est qu'au final, les connaissances, les recommandations écologiques sont nécessaires, mais souvent non suffisantes pour conserver la biodiversité. C'est un peu notre adage d'écologue de la conservation. Au départ, on a l'aspect un peu très injonction, on dit bah, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Au final, non, ça ne marche pas. Et au final, du coup, maintenant, on essaye de décaler un peu notre approche pour essayer de comprendre la pluralité des valeurs et des attitudes à l'égard de la biodiversité, justement. Et c'est probablement en comprenant ça qu'on va accompagner des changements de comportement et du coup développer des relations peut-être plus synergiques et plus vertueuses et qui renvoient aussi un respect de la nature pour ce qu'elle est. Donc petit à petit, on a questionné les attitudes des habitants à l'égard de la nature et du spontané en ville. Et dont on se rend compte, c'est d'une part qu'on a un fort attachement des citadins pour la nature en ville. Alors pour quel type de nature, j'y reviendrai après, mais en tout cas pour la nature, pour des espaces verts. Et d'une part, déjà, c'est un attachement affectif. Là, on est sur les bords de Loire, donc en plein centre-ville de Blois. Et quand on a questionné environ 200 habitants, ce qu'ils nous ont fait ressortir, c'est qu'en fait, le besoin d'aller dans ces bords de Loire pour être au calme et avoir un sentiment d'évasion également, et en gros pour s'extraire un peu des contraintes de la ville, notamment des bruits et de l'agitation urbaine, et ce qui renvoie à des théories de l'attention et de restauration en fait, psychologique qu'on a en psychologie environnementale. Cet attachement aussi, il est d'une part affectif, mais il doit être d'une part, comme l'évoquait d'ailleurs Aurélien tout à l'heure, physique, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir y accéder à cette nature, une nature qui soit assez accessible et puis qui renvoie à des usages hein, humains. Et donc, c'est ce qu'on montre, nous, sur nos bords de Loire, qu'au final, c'est la relation à la nature est totalement modelée par les usages qu'on a de cette nature, que je marche, que ce soit par la marche, par le vélo, par la position assise et l'observation de cette nature. Ce qu'on a pu remarquer aussi par rapport à la relation, enfin aux préférences, aux attitudes qu'on a vis-à-vis de cette nature, c'est qu'au final, quand même, les citadins, alors ça on le retrouve à travers plusieurs de nos travaux, ont une préférence assez importante pour de la végétation tout de même assez développée, notamment quand on est dans des milieux naturels. Là, on a travaillé plutôt par photomontage pour travailler sur des scénarios d'évolution possible. Et vous voyez que c'est souvent les deux situations, enfin ce sont les 10 situations de droite, les deux colonnes de droite, où on a la végétation la plus développée, qui sont les plus désirées en fait par les citadins, alors que c'est dans la colonne de gauche, c'est la colonne de gauche qui reflète la situation actuelle, qui renvoie d'ailleurs à la gestion de la DDT et de la DREAL. Pour autant, quand on est en milieu urbain, il y a un certain niveau de végétation trop exubérante, aussi peu repoussée. Ça, c'est ce qu'on a trouvé à travers des travaux faits avec une thésarde de Marion Brun, où on avait interrogé des citadins devant différents types de friches. Et ce qu'on remarquait, c'est que quand la végétation est très abondante, comme on a sur la photo du bas, dans ce cas-là, l'espace était vu comme plutôt abandonné. Pour autant, ce qui est intéressant de bien remarquer ici, c'est la nuance à faire. C'est-à-dire, ce n'est pas la végétation pour elle-même qui est plutôt repoussée, c'est ce qu'elle nous indique en fait sur la place de la collectivité dans ce lieu. Donc, c'est plutôt l'abandon du lieu qui est critiqué plutôt que la végétation pour elle-même. Et on pourrait se dire, au final, si on perçoit qu'il y a des signes d'attention dans cette friche un peu exubérante, probablement qu'on pourrait un peu retourner, renverser ce rapport, cette relation qu'on a à ces types de friches, qui s'exprime avec une forte spontanéité. Là, c'est un travail qu'on a mené plutôt à Rennes, où on a travaillé toujours sur cette spatialité, mais dans plusieurs types d'espaces, avec différents types d'histoires. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que justement, en fait, la caractéristique du lieu, son histoire, le rapport qu'ont les gens à ce lieu va souvent totalement moduler le rapport qu'on va avoir à la végétation, à sa spontanéité, à sa fonctionnalité écologique, même si c'est la même d'un parc à l'autre. Voilà. Quantité de nature presque constante, on peut avoir des représentations de la nature assez différentes en fonction de l'histoire et du rapport au lieu. Là, c'est, vous voyez, les prairies Saint-Martin-Rennes sont plutôt vues comme des lieux de nature en ville, alors que le parc du Landry renvoie plutôt à la mémoire de la campagne, alors qu'on est sur des structures de végétation qui sont à peu près les mêmes. Ça, c'est parce que justement, les lieux n'ont pas la même histoire. Et au final, là, j'en arrive plus à mes interrogations actuelles, qui sont que probablement, pour intégrer la biodiversité, et moi, ce que je revendique plutôt, la spontanéité, en ville, il va plutôt falloir travailler du coup sur cette relation qu'ont les gens avec cette biodiversité en travaillant probablement en rentrant par cette notion de signification des lieux. Comment en fait la nature peut être partie prenante de la signification des lieux, ce que les Anglais, dans les théories de psychologie de l'environnement ou géographie de l'environnement, parlent de sense of place, le sens du lieu. Et je pense qu'aussi pour le secteur opérationnel, notamment pour les concepteurs, paysagistes, architectes, urbanistes, il y a un intérêt à tirer parti des expériences, de nouveaux types d'expériences affectives et multisensorielles de la biodiversité pour un peu renouveler aussi la relation au lieu, mais aussi voir comment intégrer cette complexité de mécanismes, de relations écologiques dans les représentations des lieux, en termes de connaissances et de symboles. Et du coup, que la biodiversité ne soit pas juste quelque chose de statique, de nombre d'espèces, mais vraiment qu'on appréhende en fait sa complexité en termes de symboles aussi de nature dans la ville. Et puis pour aller encore plus loin, là c'est un stage qu'on mène avec Anne, donc en ligne actuellement, c'est comment aussi penser la biodiversité vraiment au plus proche des habitants et investiguer la place de la spontanéité écologique dans des espaces résidentiels en lien avec les représentations et les usages des habitants. Donc j'en arriverai à ma conclusion qui est que pour voilà, moi, en tant qu'écologue, la ville peut être un milieu accueillant pour certaines espèces, mais on a et de la fonctionnalité, mais encore on a un effort à faire pour notamment laisser de la place à la spontanéité en améliorant les conditions environnementales et en ayant des relations moins dominantes, donc moins de gestion, qu'il y a des opportunités sociales. On voit qu'il y a quand même une demande de nature, notamment assez spontanée, mais que bon, tout ça, c'est encore à améliorer. Et que bon, il va falloir accompagner ces transformations pour rendre les résultats plus opérationnels. Et donc j'en arrive à mes questions actuelles, qui sont en fait comment arriver à passer d'une ville anthropocentrée à une ville plus socio-écologique, où justement la relation à la nature ne soit pas qu'instrumentale, même si elle peut l'être, hein, mais aussi qu'on a une relation de respect d'égal à égal vis-à-vis de cette nature. Et puis, dans des aspects plus pratiques, comment intégrer la nature et la spontanéité écologique dans la signification des lieux, à travers des aspects de symboles, de connaissances, de mémoire de cette nature dans les lieux. Après, comment agencer dans l'espace et dans le temps la nature et les fonctions urbaines. Donc, vraiment, comment on fait concrètement, si on dessinait, la ville de demain? Comment revoir les formes et les pratiques aussi en secteur périurbain qui s'étend maintenant beaucoup plus que souvent les villes-centres. Or, on en parle un petit peu moins et souvent il y a moins d'argent et moins de services pour les aider à se développer. Et ça, probablement aussi, ça renvoie à quel système on va mettre en œuvre pour initier et médier ces changements de relations politiques, services des collectivités, aménageurs, concepteurs, habitants, et comment on peut travailler entre recherche et opérateurs et praticiens. Et puis au final, une question qui est plus sur quel intérêt et comment mettre en œuvre des stratégies de planification et de conception urbaine adaptative, ce qui renvoie aussi à des propos de Denis tout au début, c'est-à-dire comment penser à la ville de demain, en penser à une ville désirée, mais également en la testant au fur et à mesure, c'est-à-dire comment on crée et en même temps on crée des retours d'expérience pour encore créer de manière un petit peu plus vertueuse. Or, c'est quelque chose qui me semble un peu être oublié actuellement, ces aspects de retour d'expérience, tant sur des aspects écologiques que de relations socio-écologiques. Voilà, j'en ai terminé. Merci.